Bienvenue à ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. Aujourd'hui, nous commençons enfin notre parcours chez les grandes civilisations de l'Antiquité, et ça pour les prochains mois, parce qu'on va s'intéresser à différentes facettes des premières grandes civilisations de l'humanité. Et nous commençons aujourd'hui avec la Mésopotamie, qui est considérée comme le berceau des civilisations. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la civilisation d'Uruk, ainsi qu'à celle des Sumériens pour commencer. Et aujourd'hui, nous ferons un petit détour par l'Inde, puisque ces régions en sont venues à commercer au 3e millénaire avant notre ère. Et là, vous allez remarquer que, bon, dans les cours précédents, comme on parlait du néolithique et qu'on a fait un petit tour de la planète, il y a des dates qui sont un petit peu plus tardives, entre autres en Europe. Pensons à Stonehenge. Alors, on est vraiment allé un peu plus loin dans le temps pour le néolithique, mais là, comme nous retournons en Mésopotamie, vous allez remarquer qu'on va reculer d'un point de vue chronologique parce que c'est la région où on va voir naître les premières grandes civilisations. Alors, à vos cahiers de notes! Si on fait un petit retour sur ce qu'on a vu dans les premiers cours, si on s'en va en Mésopotamie, eh bien, Mésopotamie vient du grec Mésos, Potamos, donc entre deux fleuves, et on peut dire que l'établissement, la sédentarisation, mais aussi le développement d'une première civilisation est beaucoup lié, en fait, au climat. On a deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. C'est une région qui est encerclée par le désert, mais donc les fleuves permettent un climat qui est quand même plus adouci et le développement d'une agriculture qui est assez variée. Alors, c'est une histoire qui est liée à l'environnement, à l'eau, et on verra exactement la même chose du côté de l'Inde un peu plus tard. Et comme c'est une région avec un faible taux de précipitations annuelles, ça permet quand même là, d'avoir un climat qui est agréable où vivre. On n'a pas besoin de s'habiller trop chaudement. On peut circuler quand même assez facilement aussi. Et il faut dire que la Mésopotamie a une ouverture sur la Méditerranée. Alors, tout ça donne quand même des régions, en fait, autour du Tigre et de l'Euphrate qui, si on monte au 4e millénaire avant notre ère, donnaient des secteurs qui étaient quand même beaucoup plus tempérés. Et il faut dire que les deux fleuves reçoivent les précipitations qui viennent des montagnes de l'Anatolie, de l'Arménie et des montagnes du Zagros du côté de l'Iran. Alors, on va avoir aussi des périodes de cru en avril et en mai. C'est moins puissant que ce qu'on verra pour le Nil, mais ça fait quand même en sorte que quand on arrivait au printemps, le Tigre et l'Euphrate débordaient quand même un peu de chaque côté, laissaient une boue, on va dire limoneuse, avec des détritus végétaux, une sorte de compost, qui rendait quand même les terres, même si on est dans un climat assez désertique, très, très, très fertile. Et c'est vraiment ça qui va expliquer que non seulement on va s'y établir et qu'on va développer les premiers villages, qu'on va s'en aller vers les premières villes, mais très rapidement, en fait, quand on commence à pratiquer l'agriculture et qu'on s'organise socialement et de plus en plus politiquement, on va très vite comprendre comment développer des techniques d'irrigation pour étendre, en fait, les zones qui puissent être inondées, irriguées, on va plus dire, à recevoir le plus d'eau possible pour étendre, en fait, les zones agricoles. Et ça, ça va faire en sorte que la Mésopotamie, quand on arrive autour du 4e millénaire avant notre ère, devient une très grande zone géographique où vous avez plein de petites cultures, une mosaïque de peuples, en fait, qui cohabitent un petit peu partout. On avait parlé, en fait, là, dans les premiers cours de la culture d'Usana et surtout de la culture d'Obeid, donc qui se trouve dans le sud de la Mésopotamie pour les vestiges archéologiques. On est vers 5500 avant notre ère. Et donc, on a cette cohabitation de gens qui n'ont pas tout à fait la même façon de faire de la poterie. Quand on parle de culture, en fait, c'est qu'elles ont chacune un peu leur pratique culturelle, leur façon de construire les maisons, leur façon de construire leur vaisselle, leur poterie, leur façon aussi de diviser même les rues quand on s'en va de plus en plus vers les premières villes, parce que c'est ce qui est en train de se passer quand on arrive vers la fin, je vous dirais, là, du 6e millénaire avant notre ère. Les villages laissent place aux premières petites cités. On commence à avoir donc une plus grande concentration de gens qui habitent ces lieux-là. On commence à mieux diviser l'espace aussi et lentement, mais sûrement, on commence à avoir un surplus agricole. On est rendu habile, en fait, dans la production agricole. Les régions du sud ont certaines ressources naturelles que les régions du nord de la Mésopotamie n'ont pas. On commence à chercher à échanger, en fait, certaines ressources, donc des céréales d'un côté pour avoir, entre autres, du bitume de l'autre. Le bitume qui a quand même des capacités, des propriétés en fait imperméabilisante, donc on veut l'utiliser parfois pour faire des bassins de réservation, entre autres. On n'est pas du tout dans l'ère du pétrole ici, mais il n'en demeure pas moins que c'est un produit intéressant, entre autres pour pouvoir conserver de l'eau quand on en a besoin pour les arrosages. Je vous rappelle qu'on est quand même dans un climat désertique. Et on remarque d'ailleurs, quand on arrive là, vers les années On s'en va vers les années 4000 avant notre ère, que là, on a de plus en plus de gens qui ont des métiers, des spécialisations, que ce soit en construction, mais aussi en céramique, qui sont devenus, en fait, une production industrielle. Donc, ce n'est plus une production familiale, comme on parlait dans les premiers cours, mais on est vraiment rendu avec des gens qui produisent une grande quantité de pots, de jarres pour la conservation des céréales, d'une part, mais aussi des premières huiles et tout ce qui est liquide aussi, parce que là, on est vraiment à une époque où on va commencer à découvrir la bière. La bière qui, pour l'instant, laisse toujours place à un petit peu d'interprétation, mais on sait qu'éventuellement, est-ce en Égypte, est-ce en Mésopotamie que c'est arrivé en premier? Il y a encore toujours des débats parce qu'on n'a pas trouvé nécessairement la première, le premier grain qui a permis de découvrir la fermentation, les levures et la bière. Mais on entre là, dans cette époque-là où, à un moment donné, on suspecte en fait que quelque part, soit en Mésopotamie ou en Égypte, il y a quelqu'un qui a laissé des céréales dans une jarre quelque part, il y a eu un peu d'eau dedans, le petit liquide a fermenté et on découvre comme ça les levures et ce qui va amener à la fabrication de la bière, mais va mener aussi vers le pain. Alors, c'est un peu une cohabitation hein, entre le pain qui lève cette fois-ci, non pas des pains plats, donc des pains à levure, et la bière, ça se passe pas mal en même temps. Mais on n'a pas un animateur de télévision qui va vous dire « c'est à ce moment-là qu'on a découvert la bière ». Il nous manque encore pas mal d'informations, mais on sait que c'est à peu près l'époque où ça devrait se produire. Alors, ça nous amène au 4e millénaire avant notre ère, et surtout le sud, en fait, de ce qui est aujourd'hui l'Irak, c'est le théâtre de profonds changements démographiques, techniques, culturels, parce que là, ça bouge beaucoup. Si on fait de la céramique industrielle, c'est qu'on commence à utiliser le tour rapide. Alors, on a vraiment compris comment un tour permet de faire des pots qui sont sensiblement égaux, qui ont une belle rondeur, qui n'ont pas de trous et qui permettent de bien conserver les aliments. Et comme on commence à avoir de plus en plus de gens, on va avoir une élite qui émerge probablement du commerce au départ, une élite politique, une élite économique qui va vouloir se distinguer aussi du reste de la population avec, entre autres, de la céramique de plus belle qualité qui commence à être peinte. Alors, il se passe vraiment beaucoup de choses quand on arrive au tournant du 4e millénaire avant notre ère. Il faut dire que du point de vue archéologique, on découvre des choses constamment, mais il nous manque quand même quelques petits morceaux parce qu'on n'a toujours pas l'écriture, en fait, dans cette région-là. Mais ça nous mène vers à peu près 3750, vers une première civilisation qui va vraiment dominer l'ensemble de ce qu'on appelle la Mésopotamie. Alors, au départ, je vous parlais de culture au pluriel, comme la culture Usana, comme la culture d'Obeid. Ça veut dire que ces gens-là habitent une portion seulement de la Mésopotamie et ont un mode de vie très similaire, mais peuvent coexister avec d'autres cultures dans la même zone géographique. Et quand on arrive vers 3800, vers 3750, à peu près avant notre ère, avec le développement du tour rapide, avec aussi l'arrivée du bateau à voile, on a une région, une ville, elle s'appelle Uruk, qui est peut-être un petit peu plus avancée technologiquement que le reste de la Mésopotamie, et on va limiter, on va copier un petit peu ces découvertes, on va apprendre, en fait, on va transmettre le savoir de ces nouvelles technologies, et c'est un peu ce qui explique que cette culture uroukienne, eh bien là, elle va en venir à s'étendre sur l'ensemble de la Mésopotamie et ça va durer pendant plusieurs siècles. Alors là, on a les caractéristiques d'une civilisation. Ça veut dire qu'on a sensiblement des gens qui vont parler la même langue, avec des fois des variantes, qui vont avoir les mêmes façons de construire à peu près les maisons, de structurer les villes, qui vont avoir les mêmes croyances spirituelles, religieuses, et ça va s'étendre sur une grande zone géographique et généralement pendant plusieurs siècles. Alors, ça y est, c'est pour ça qu'on parle de la Mésopotamie comme étant le berceau des premières civilisations, parce que c'est là que ça se passe. Alors, ça commence avec Uruk, qui au départ est une des premières grandes villes organisées en Mésopotamie, et elle va en venir à fonder des comptoirs commerciaux à des endroits stratégiques en Mésopotamie. Donc, elle va remonter, en fait, le long des deux fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate pour établir ses comptoirs, faire des échanges, et graduellement, eh bien là, elle va c'est une civilisation qui va développer le bateau à voile. Alors, il existe déjà un mode de déplacement sur les cours d'eau qui est la pirogue. Donc, on creuse un tronc d'arbre, on s'assoit un peu dedans comme un kayak, mais ça ne permet pas de déplacer de grandes quantités de céréales, entre autres, si on veut faire des échanges pour avoir du bitume, à titre d'exemple, ou de l'or, ou du cuivre. Et là, ça devient intéressant, en fait, les métaux, lentement mais sûrement, parce que là, on construit, le cuivre peut servir à faire des outils, pas agricoles, mais des outils, par contre, pour construire des maisons, construire des bâtiments publics. Alors là, on veut s'approprier différents types de ressources et c'est pour ça qu'on établit des comptoirs commerciaux un petit peu partout et c'est comme ça que les gens des autres cultures de la Mésopotamie entrent en contact avec la culture uruquienne et comme elle est peut-être un peu plus avancée technologiquement parlant, eh bien on en vient à adopter en fait ces pratiques-là et là, vous avez le début d'une civilisation. Alors à son apogée, peut-être autour de 3600-3500 avant notre ère, la ville d'Uruk qui est à l'origine de cette civilisation comptait à peu près 40 000 habitants. Donc, on comprend que ça s'est établi là, par des relevés archéologiques. On n'a pas, en fait, de recensement là, à cette époque-là. Mais pour l'époque, c'est une population considérable et c'est ça qui va permettre un développement économique quand même important. Alors, sur le site de l'ancienne cité d'Uruk, on va trouver les premiers temples qui sont construits avec de la brique crue, qui vont être juxtaposés ou superposés, ce qui va nous amener aux premières ziggourats. Donc, si vous avez déjà entendu parler de la tour de Babel, donc cette idée. Et ça, je vous invite à aller voir des images sur Internet. Donc, ziggourat, vous l'écrivez en français généralement Z-I-G-G-O-O-U-R-A-T, mais vous pouvez le voir aussi Z-I-G-G-U-R-A-T, les deux fonctionnent, où vous allez voir ces espèces de temples qui fonctionnent en palier. Donc, le fait de monter en palier un peu comme une forme pyramidale fait en sorte qu'on peut monter une structure de plus en plus haute et de plus en plus lourde sans que l'ensemble ne s'effondre. Et on va en avoir une très, très grosse, en fait, du côté d'Uruk vers la fin du 4e millénaire avant notre ère, qui était dédié à un dieu qu'on va connaître grâce aux Sumériens, qui s'appelait le dieu du ciel Anne. Alors, il y a vraiment tout un développement spirituel aussi. Ça veut dire qu'on a des infrastructures pour les offrandes, pour, bon, on va dire, les prières, ou du moins essayer de plaire aux dieux. Donc, différents cultes, en fait, qui vont s'y retrouver. On sait qu'il y avait déjà des traces de peinture. On en voyait déjà avec Çatalhöyük, mais donc, pour les temples qu'on va trouver à Uruk, on a des murs qui sont peints en rouge, en noir, en blanc. Donc, ça devait être quand même assez intéressant visuellement si on avait pu vivre à Uruk au cours du 4e millénaire avant notre ère. Et il faut dire aussi que les fouilles archéologiques qui ont permis de découvrir tout ça ont commencé dans les années 20, à une époque où l'archéologie commence lentement mais sûrement à avoir une pratique qui est beaucoup plus scientifique, qui est beaucoup plus stratégique, ce qui fait en sorte qu'on a quand même été capable de bien étudier le site sans qu'il y ait trop de dégâts, je vous dirais, à partir de cette époque-là. Des fouilles qui étaient entre autres supervisées par le British Museum à l'époque. On va trouver aussi les vestiges des maisons, qui sont des maisons de briques crues d'une moyenne de 3 pièces. Donc, si vous vous rappelez des tout premiers villages dont on avait parlé, Jéricho, Çatalhöyük, c'était généralement plus une grande pièce pour la famille. Là, on est rendu avec une moyenne de 3 pièces. Ça veut dire qu'on a une pièce commune, on a généralement un espace plus de cuisine et on va avoir généralement une pièce aussi pour stocker, en fait, la nourriture, stocker les grains, stocker les liquides, etc. Et on va souvent avoir une cuisine aussi qui est à l'extérieur. Il fait assez chaud pour le faire. Alors, il y a généralement aussi une cuisine à l'extérieur avec un four, entre autres. Et certaines maisons vont même avoir des tombes en dessous. Ça veut dire qu'on enterrait la famille sous la résidence qu'elle avait habitée. Ce qui est un peu de dommage, je vous dirais, pour Uruk, si vous avez déjà visité le British Museum, si vous avez déjà visité le musée du Louvre, qui ont quand même des artefacts de cette civilisation-là, ou si vous avez eu la chance d'aller du côté du musée de Mossoul en Irak ou du musée de Bagdad, si vous êtes peut-être plus chanceux, ils ont été fermés très, très longtemps, ça vient à peine de réouvrir de ce côté-là. Ça reste quand même une période qui est un peu plus pauvre en objets d'art, si on compare à la civilisation suivante, qui sera celle des Sumériens, parce que oui, on se doute qu'on en fait, mais les objets n'ont pas trop survécu jusqu'à nous et ils sont généralement, bon, c'est toujours fait un peu... c'est essentiellement des sculptures de poterie, donc ça n'a pas toujours une très, très longue durée de vie. Ça se brise assez facilement. Donc, c'est rarement en métal, parce qu'il faut dire que les métaux, pour l'époque, sont très chers, sont très rares. Quand je dis très chers, c'est qu'il faut les découvrir et il faut réussir à les extraire. On a des outils qui sont très, très, très limités à ce moment-là, alors c'est pas nécessairement évident. Mais l'intérêt pour les métaux, toutefois, va faire en sorte qu'on veut mettre l'emphase sur les échanges commerciaux. Alors, développement du bateau à voile, et là, vous allez me voir venir, lentement mais sûrement, on va s'en aller vers la roue, et donc vers les premières charrettes aussi tirées par des bovidés. Alors, on utilisait déjà la roue pour la tour de Potier, et il ne manquait, je dirais, qu'une étape avant de comprendre que si on la mettait à la verticale et qu'on plaçait une plateforme de bois dessus, eh bien, la roue allait permettre de pouvoir se déplacer. Alors, c'est vraiment à la civilisation d'Uruk qu'on doit quand même deux inventions assez importantes pour accentuer le commerce, les échanges et la transmission des savoirs. Le bateau à voile qui permet de pouvoir déplacer des plus grandes quantités et sur une plus longue distance, et ensuite, eh bien, la roue qui va permettre par voie terrestre de déplacer encore une fois du grain, des métaux, tout ce qu'on veut échanger. Alors, ça devient vraiment un lieu de foisonnement, de découverte, d'échanges intellectuels, culturels, d'idées quand on est rendu, là, je vous dirais, vers les années 3500 avant notre ère. Parce que pour la roue, c'est à peu près ça, les dates auxquelles on arrive pour l'instant, environ 3500 avant notre ère. On n'a pas encore l'écriture, mais il y a quand même une forme de communication. Donc, on réalise que sous Uruk, on ne sait pas si on a des monarchies ou si on a plus des chefs de ville. On a quand même certaines sculptures qui nous donnent l'impression qu'il y a une bonne autorité politique, mais est-ce qu'on parle vraiment de monarchie, c'est très, très difficile à établir sans l'écriture ou sans preuves supplémentaires, mais il y a quand même un mode de communication de l'élite dirigeante, en tout cas des villes qui font les échanges commerciaux, et c'est ce qu'on appelle les fameux sauts-cylindres. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la pré-écriture du côté de la Mésopotamie. Alors, il faut imaginer que vous êtes probablement un chef de ville, vous êtes à la tête de l'administration d'une ville, vous voulez établir des échanges commerciaux avec une autre cité en Mésopotamie et vous avez promis d'envoyer des céréales, entre autres de l'orge, et en échange, ben, vous voulez un peu de cuivre. Alors, vous voulez confirmer que c'est bel et bien votre livraison qui s'en vient par charrette. Alors, on va façonner, en fait, avec de l'argile, un colombin, comme vous pourriez faire, en fait, avec de la plasticine. Et vous allez graver un symbole qui vous est associé. Donc, pourquoi pas une gazelle? Et là, vous allez graver la gazelle sur le colombin, sur le cylindre. Et là, si vous envoyez un ballot, on va dire, d'orge, eh bien là, vous allez mettre une plaque d'argile humide et vous allez dérouler votre sauce-cylindre dessus, ce qui fait que le symbole de la gazelle va se dupliquer et vous allez laisser sécher le tout. Donc, c'est une façon d'appliquer un sceau et une image, donc, qui se répète, qui est associée à un personnage politique ou un personnage commercial important. Alors, on en a toutes sortes, hein? On a des porteurs d'offrandes, on a des animaux, des fois, qui ont l'air un petit peu plus mythologiques que réels. On a des gens aussi qui sont vêtus avec des jupes, des barbes. On commence à avoir une idée, en fait, de l'habillement très sommaire de l'époque. Je vous rappelle qu'il fait chaud, on n'a pas besoin de mettre trop l'emphase sur l'habillement. Donc, souvent, ce sont des espèces de pagnes ou de jupes qui sont souvent faites, en fait, de végétaux et non même pas de tissus. Et parfois, donc, quand on voit ce qui pourrait ressembler peut-être à des prêtres, parce qu'on se doute qu'il y en a s'il y a des temples et des ziggourats, certains vont porter là, des peaux d'animaux sauvages comme du léopard, du guépard, etc. Alors, on a un peu ces représentations-là sur les différents sauts-cylindres. Et ça a été au cœur d'une histoire quand même assez triste. Je fais une petite parenthèse ici. Mais quand la guerre en Irak avait commencé, là, après les événements du 11 septembre 2001, on n'a pas protégé les sites archéologiques en Irak. D'ailleurs, le musée de Bagdad avait été pillé. C'était vraiment très triste, en fait, comme image. Mais en même temps, les archéologues disaient, bien, écoutez, là, les gens font des trous partout. On vend des sauts-cylindres qui ont été trouvés, on ne sait pas où, dans les foires publiques pour $50 américains, alors que ça n'a pas de valeur. C'est inestimable. En fait, chaque saut-cylindre nous en apprend davantage sur les échanges entre les cités à l'époque uruquienne. Alors ça a créé quand même pas mal de bouleversements, je vous dirais, et on se doute qu'on a perdu beaucoup de sauts-cylindres à partir de ce moment-là. Ça a été assez long avant que l'armée américaine en vienne à contrôler et, je dirais, à protéger les sites archéologiques, malheureusement. Mais donc, ce qu'on remarque, c'est qu'à partir de 3500 avant notre ère, il y a une explosion démographique. Le nombre d'agglomérations là, augmente constamment, on le voit très bien du point de vue archéologique, et là, on a des sociétés qui sont bien établies, qui vivent bien de l'agriculture, de l'élevage, voyages et du commerce, et il y a des migrations. Donc, les gens, des fois, vont décider de passer du nord vers le sud pour profiter, je vous dirais, du foisonnement peut-être un petit peu plus technologique à ce moment-là. Certains vont avoir des talents qui vont être recherchés et qui vont être invités à se déplacer dans certaines villes. Alors, ça va quand même très, très bien, en fait, à l'époque uruquienne. Et on commence même à améliorer les techniques hydrauliques. Donc, je vous parlais d'irrigation, mais là, on va vraiment développer les bassins de réservation de l'eau. On va faire des canalisations pour déplacer l'eau sur les différentes parcelles de terre. Là, on est rendu avec des chariots à quatre roues pour le transport. Et on va même inventer l'arrière qui va remplacer la houe, qui va faciliter, en fait, le travail de la terre. Attention, à cette époque-là, par contre, les objets agricoles sont toujours faits avec du bois ou des ossements. Les métaux valent encore trop cher pour être utilisés du point de vue de l'agriculture. On va les garder pour honorer les divinités. On va les garder, on va garder le cuivre en fait pour les outils, plus pour la construction. Et éventuellement, quand on va en venir à l'ère des métaux, et on arrive là du côté de la Mésopotamie, ça va aussi servir pour tout ce qui est la défense, donc le côté militaire. Alors c'est aussi Uruk qui fait passer la Mésopotamie vers l'âge du bronze. Lorsqu'on parle de l'âge du bronze, je vous en avais parlé un petit peu aussi avec Sang Xingdui du côté de la Chine, eh bien, c'est l'âge de la métallurgie. Donc, comme le néolithique, l'âge du bronze, en fait, c'est une étape d'évolution chez les sociétés humaines. Ce ne sont pas toutes les sociétés qui l'atteignent en même temps. Certaines vont l'atteindre très rapidement après le néolithique parce qu'elles vont entrer en contact avec des gens qui ont déjà maîtrisé la fabrication du bronze. Mais du côté d'Uruk, on va vraiment faire toutes les étapes. On va découvrir comment faire des alliages. Alors, c'est ça que ça signifie l'âge du bronze, c'est la métallurgie. Alors, graduellement, on va comprendre que certains métaux ramollissent facilement à la chaleur. C'est le cas de l'or. En fait, il n'y a même pas besoin d'être chauffé. C'est pour ça que s'il est pur et vous croquez dedans, ça va laisser une empreinte de vos dents. Mais on réalise que certains métaux au-dessus du feu peuvent ramollir. Et là, il ne manque que l'étape vers comment les liquéfier, dans le fond, atteindre leur point de fusion. C'est sûr que si vous laissez du métal au-dessus d'un feu à air ouvert, vous n'atteindrez pas nécessairement les degrés nécessaires, 800, 1000, 1500 degrés Celsius pour l'or, pour atteindre les points de fusion. Donc, c'est sous la civilisation d'Uruk qu'on commence à comprendre l'importance du four qui va concentrer assez la chaleur pour atteindre les fameux points de fusion. Et quand on atteint les points de fusion de différents métaux, bien là, on peut les mélanger. Alors là, on peut faire des alliages et c'est comme ça qu'on arrive avec le bronze. Le bronze qui est un alliage de cuivre et d'étain et qui va donner un métal qui est résistant au combat, qui est quand même assez lourd aussi et qui a une belle apparence, il faut quand même le dire, mais qui est beaucoup plus résistant que de l'or. Une armure en or ne vaut pas vraiment la peine, en fait, en termes de poids et de résistance parce que l'or est trop mou. Mais le bronze, quand on a créé cet alliage-là, pas du tout. Alors là, on va avoir des gens qui vont se spécialiser dans un nouveau type de métier qui est la métallurgie. Alors là, l'augmentation du commerce de longue distance parce que si on commence à faire du bronze, là on veut des métaux, on veut du cuivre, on veut de l'étain qui sont plus importants que l'or. En fait, l'or va servir d'un point de vue religieux, peut-être un peu politique pour l'époque, mais le cuivre et l'étain permettant de faire le bronze, ça devient plus intéressant. Parce que là, avec tout ce foisonnement, là, il commence à y avoir de la convoitise. Et plutôt que de faire que du commerce, il y a des gens qui vont vouloir avoir certaines parcelles de terre agricole ou des zones où on a du bitume et surtout des mines. Et là, ben, il va y avoir des premiers conflits armés. Alors, le bronze vient vraiment donner une chance pour s'armer et créer, en fait, les premières petites armures pour se protéger. On n'est pas dans des grosses armures, des grosses armées comme dans les films là, pour le moment, mais il y a quand même un début de militarisation vers la fin de la période d'Uruk. Lentement, mais sûrement, ben, ce qu'on remarque, c'est qu'à la fin de la civilisation d'Uruk, on a vraiment beaucoup de cités un peu partout sur le territoire de la Mésopotamie et on commence à voir des cités-états. Donc là, l'organisation, je vous dirais, politique est un petit peu plus clair. Chaque ville et la campagne environnante qu'elle dirige, on peut dire ça comme ça, vont être des États à part entière. Chacune est gérée à sa façon, avec des chefs qui vont s'appuyer sur différentes classes de fonctionnaires. Elles ont chacune un peu leurs lois, leurs règles, leur façon de faire. Et là, ben, vous avez une multitude de cités-États qui émergent à partir de 3500. Et c'est ce qui fait que vers 3200 avant notre ère, il y a une cité qui est déjà là, qui va commencer à faire des conquêtes, qui va en venir à s'étendre en Mésopotamie. amis et à imposer, on pourrait dire d'une certaine façon, sa culture. Et c'est donc Sumer et on entre dans ce qu'on appelle la civilisation sumérienne, l'époque des cités-états sumériennes, vers à peu près 3200 avant notre ère. Là, il faut faire attention parce que dans les livres d'histoire, vous allez souvent voir des dates qui peuvent, qui peuvent porter à confusion. Vous allez voir, bon, Uruk se termine en 3200, puis on fait commencer souvent Sumer plus en termes de civilisation vers 3100. Bien, c'est normal. Le temps que les conflits se déroulent, le temps que la culture sumérienne l'emporte sur la culture uroukienne, bien, c'est normal qu'il y ait au moins un siècle, je vous dirais, de transition. Donc, c'est plus vers 3100 qu'on va parler vraiment d'une nouvelle civilisation en Mésopotamie qui est la civilisation sumérienne. Alors, d'où viennent les Sumériens? Bien, c'est une ville de Mésopotamie qui s'est développée un peu comme la ville d'Uruk. La langue sumérienne, elle, on la connaît parce que là, on va parler d'écriture, mais elle ne ressemble à aucune autre langue morte ou vivante qui nous permette d'avoir une idée là, vraiment d'où ils proviennent. Est-ce que, ils étaient déjà là depuis la période dite de la culture d'Obeid, on peut le penser? Est-ce qu'ils étaient peut-être des migrants qui arrivaient peut-être plus d'Anatolie? C'est une autre théorie qui existe, mais on sait quand même qu'à partir de 3500, avant notre ère, c'est la civilisation qui l'emporte. La langue sumérienne va commencer à être la langue dominante en Mésopotamie. Et comme on s'en va vers les débuts de l'écriture, eh bien, le premier système d'écriture va être en langue sumérienne et non pas en langue uroukienne. On ne parle pas la langue uroukienne, comme je disais, vu qu'on a des sous-saintes, mais on n'a pas d'écriture, donc on ne sait pas exactement s'il y avait beaucoup de ressemblances ou de différences. Mais ce qu'on sait, c'est que là, maintenant qu'il y a, je dirais, une certaine convoitise pour beaucoup de ressources naturelles diversifiées, les cités-états vont toujours être établies près d'un cours d'eau. Oui, le Tigre et l'Euphrate, mais il y a des fois aussi des petits lacs, des rivières, etc. Elles vont presque toutes être fortifiées. Donc ça, on est capable de le voir assez bien d'un point de vue archéologique. Et on sait qu'elles vont toutes avoir un chef ou même un roi pour certaines, où c'est plus clair. Donc certaines grandes cités, comme Sumer, vont avoir un roi à leur tête et elles vont toutes avoir un dieu, une divinité principale et elles vont être en rivalité, hein, les unes contre les autres pour des questions territoriales, hydrauliques, commerciales, ce qui a mené à des conflits de domination et c'est un petit peu comme ça que la civilisation sumérienne au gré des conflits et des conquêtes va s'étendre sur l'ensemble de la Mésopotamie. On a quatre grandes cités-états qui étaient plus importantes que les autres, on pourrait parler de métropoles ici, qui vont gérer un petit peu les grands échanges commerciaux, donc vous avez la cité d'Our, vous avez la cité de Lagash, qu'on appelle aussi Girsu, Ebla et Marie. Donc, si vous aviez déjà vu au tournant des années 2000 la grande exposition sur cette civilisation en particulier, sur la Syrie aussi, au musée de la civilisation, ça va peut-être sonner une cloche chez vous. Et c'est grâce aux découvertes archéologiques qu'on a commencé à mieux comprendre, en fait, le fonctionnement des cités-états sumériennes à partir des années 20 et des années 30. C'est vraiment là où on a enfin mieux compris qui ils étaient. Donc, on réalise que le roi des grandes villes, en tout cas, que je viens de nommer, est plus un roi prêtre. Donc, c'est le dieu principal de la ville qui semble lui donner sa fonction, le choisir. Il devient un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et ça, c'est quand même quelque chose que, si jamais vous enseignez, en fait, au niveau du secondaire ou à différents niveaux scolaires, on va souvent, en fait, dire le roi est un roi prêtre, contrairement à l'Égypte. Effectivement, il y a une bonne différence de ce côté-ci parce qu'il est vraiment un intermédiaire, mais il n'est pas divin en soi. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et donc, les cités-états, par l'entremise de leur roi et de l'aristocratie dirigeante qui va l'accompagner, bien, vont gérer les terres céréalières, vont gérer le commerce, vont gérer aussi la religion. L'État va prélever, on le sait, des impôts en nature. Il y a une partie là, des récoltes ou des fois des animaux d'élevage qui vont être mis en réserve dans ce qu'on appelle les magasins des palais. Donc, s'il y a une famine ou s'il y a quoi que ce soit, on va avoir des surplus. Ou si on doit négocier parfois dans un contexte de guerre ou de conflit, bien, c'est toujours important, en fait, d'avoir des surplus alimentaires, des surplus aussi en métaux pour les échanges commerciaux ou pour des situations, des imprévus, en fait. Et il y a une partie aussi de ces impôts qui sert à nourrir les gens qui ne travaillent pas la terre. Donc, le roi, les aristocrates, une nouvelle classe sociale qui va s'appeler les scribes, les artisans qui travaillent aussi, entre autres, pour les temples et tout ça, et les militaires. Les militaires, on le sait grâce à l'écriture, vont avoir une ration selon leur rang dans l'organisation militaire. Donc, on commence à avoir une bonne machine économique et bureaucratique qui se met en place parce que la Mésopotamie, c'est un immense territoire. Les grandes villes sont quand même assez grandes, ont beaucoup de terres agricoles aussi sous leur joug, ce qui fait en sorte qu'on va avoir des intendants, des vérificateurs des impôts, des inspecteurs. Alors, on commence à avoir une hiérarchisation qui est assez complexe de la société. Et les temples deviennent de plus en plus importants aussi parce qu'ils assurent en fait la bonne relation entre les hommes et le divin, et on veut s'assurer en fait que l'agriculture aille toujours bien, qu'il n'y ait pas de famine, qu'il n'y ait pas non plus de guerre trop sanglante. Donc on doit apaiser les dieux par différentes cérémonies cultuelles en général. Et donc ça fait en sorte que lentement mais sûrement on va en venir à développer aussi des moyens de communication et des moyens d'archiver l'information. Et c'est comme ça, en fait, que les Sumériens vont développer 4 étapes qui vont mener à l'écriture en tant que telle. Donc, le but, c'est d'avoir au départ un procédé mnémotechnique. Garder en mémoire les chiffres. On fait des échanges commerciaux. Alors, c'est mathématique, en fait, au départ. C'est ce qu'on appelle des calculi. Les calculi, c'est quand même assez simple. Vous allez, mettons, dire, bon, ben moi, j'envoie d'Ur vers Lagash du blé, donc 7 ballots de blé, 3 moutons et telle tant de quantité de cuivre, mettons. Ben là, vous allez décider que les ballots de blé vont être représentés par des petits colombins en argile, les moutons vont être représentés par des triangles et les morceaux de cuivre vont être représentés par des petits carrés d'argile. Alors, chaque objet a une représentation. C'est un peu comme la grosse boule en plastique trouée quand vous êtes enfant et vous essayez de passer les formes au travers. On met les objets à l'intérieur, donc en argile, qui vont avec les quantités qui sont expédiées pour le commerce. On ferme ça dans une boule d'argile scellée, et quand la compagnie de transport arrive à destination, on brise la boule et on va comparer les quantités de calculi avec les quantités qui sont arrivées à destination. Lentement mais sûrement, ben là, on va commencer à vouloir représenter quand même des thèmes ou des objets en les gravant. Et donc, la première étape de l'écriture, ce sont les pictogrammes. Ça veut dire que si je veux représenter que j'envoie des moutons, je vais dessiner un mouton. Si j'envoie du blé, ben, je vais dessiner des ballons de blé. Si j'envoie des gens, ben, je vais faire la représentation d'un être humain. Et là, ben, c'est sûr que ça, c'est très direct, là. Un mouton veut dire un mouton, un ballot de blé veut dire un ballot de blé. Mais là, à un moment donné, on va vouloir écrire, garder en mémoire des idées, en fait. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et c'est comme ça qu'on développe l'idéogramme, qui, lui, est une juxtaposition de signes pour traduire une idée. Donc, si vous mettez le symbole de l'eau, que vous dessinez tout de suite à côté un poisson et tout de suite à côté une canne à pêche et que vous les collez ensemble, bien, vous avez une juxtaposition de signes qui, là, veulent dire l'idée de la pêche. Alors là, on va commencer à arriver vers les idéogrammes. Et vers 2500 avant notre ère, on arrive vers un système d'écriture complet qu'on appelle le cunéiforme. Cuneus, ça veut dire coin en latin, parce qu'on prend un calame, un roseau taillé en biseau, et on va utiliser le bourron pour certains symboles, on va utiliser le biseau pour d'autres symboles, où chaque symbole, en fait, représente un son de la langue. Donc, c'est une écriture phonétique et syllabique qui permet maintenant d'exprimer tout ce qu'on peut avoir comme idée, et ça permet donc d'avoir une écriture, ça permet le discours complexe, en fait. Donc, on est rendu vers une écriture très intelligible à partir de ce moment-là. Et l'écriture, ben là, change l'histoire, là. C'est quand même assez important à partir de ce moment-là, parce que là, on peut fixer tout ce que peut exprimer la langue, on peut le garder, l'archiver, et c'est comme ça qu'on a une meilleure idée de comment fonctionnent les Sumériens du point de vue administratif, d'ailleurs. Mais c'est sûr qu'au départ, on ne se le cachera pas, là, c'est réservé à l'élite, parce que là, ensuite, il faut l'enseigner, ça prend des spécialistes de cette écriture-là, ce qui nous amène à cette classe sociale des scribes, là, qui gère l'administration, gère l'histoire, la mémoire, la religion, la communication avec le divin aussi, et ça nous amène des premières œuvres comme celle de Gilgamesh, donc l'épopée de Gilgamesh, qui est un roi d'Uruk, qui cherche l'immortalité. C'est un poème épique qui est d'origine sumérienne. Les plus anciens fragments sur les tablettes cunéiformes, donc des tablettes d'argile qui ont séché ou qui ont même cuit s'il y a eu des incendies, remontent à peu près vers 2100 avant notre ère. Donc, ça a été rédigé non pas en sumérien pour celles qu'on a pour les plus anciennes, mais bien en acadien, civilisation dont on parlera dans les prochains cours. Mais ça reste que c'est le moment où ce genre de récit va commencer à circuler. Alors, les Sumériens vont nous mettre des recettes de bière, vont nous mettre des recettes aussi de pain, de gâteaux. On va avoir aussi déjà des mentions de recettes pour soigner différents problèmes de santé. On va commencer à observer aussi le ciel. Alors, ça, on commence à avoir quand même une diversité de textes quand on arrive là, vers à peu près 2500-2400 avant notre ère. Et on réalise aussi que les rois, quand même, d'Ur étaient, de la civilisation sumérienne était quand même assez riche pour certains parce que dans les années 1920, vous avez l'archéologue, en fait, du British Museum, Leonard Woolley, qui va découvrir sur le site de la cité royale d'Ur un cimetière royal qui date du 3e millénaire avant notre ère. La plupart des sépultures dataient d'à peu près 2600. Et enfin, on a trouvé 17 sépultures. On a des tombeaux voûtés en pierre, en briques. Et là, ce qu'on a trouvé à l'intérieur est fabuleux. On a des vases, des coupes en or, en argent, des poignards avec du lapis lazuli qui vient probablement d'Égypte ou de l'Inde. Des lyres avec des têtes d'animaux recouvertes de feuilles d'or et de bijoux. On a un masque en or massif, un masque militaire qui était plus un masque d'apparat qui est fabuleux. Et surtout, l'étendard d'Ur, qui est une boîte de bois que vous pouvez voir au British Museum, qui est en fait une source iconographique assez intéressante. D'un côté, vous avez une scène de banquet qui montre en fait comment les gens buvaient, dans quel genre de vaisselle, qui correspond avec la vaisselle trouvée dans les tombeaux. D'ailleurs, une des lyres qui se trouve dans la tombe royale d'Ur se trouve aussi sur cet étendard. Ça permet de voir un peu l'habillement. Et de l'autre côté, vous avez une scène de guerre où là, on voit vraiment un roi qui va au combat. On voit les gens qui portent des peaux d'animaux pour se couvrir avec les chars et tout ça. Donc, c'est quand même une première représentation un petit peu de ce qu'est la vie quand tout va bien et à quoi ressemble en fait une délégation militaire à cette époque-là. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil là, pour l'étendard d'Ur. Et donc, l'histoire sumérienne va commencer à se terminer autour des années 2450-2400. On commence à avoir des conflits qui arrivent d'ailleurs, donc la région intéresse évidemment, des populations de Syrie du Nord, il y a plein de gens là, qui vont essayer de se battre, de repousser des envahisseurs dans différentes régions de la Mésopotamie, et c'est finalement en fait un roi, Sargon d'Akkad, qui va réussir à soumettre la région de Sumer et qui va conquérir les vallées du Tigre et de l'Euphrate et de la Syrie du Nord vers 2400 avant notre ère. Donc on reviendra à la civilisation akkadienne plus tard. Mais, petit point pour terminer, on va aller faire un petit parallèle avec la civilisation de l'Indus, parce qu'on sait que les Sumériens vont, entre autres, échanger de l'or et du lapis lazuli avec l'Inde, qui vont donc être des civilisations qui vont coexister. La civilisation de l'Indus, c'est un territoire là, qui va s'étendre autour de la vallée du fleuve de l'Indus. On est dans le sous-continent indien, essentiellement ce qui est le Pakistan, surtout aujourd'hui, ses alentours, et c'est une région là, qui va voir évoluer une civilisation entre 3300 et 1900 avant notre ère, donc qui vont être contemporains des Sumériens, des Égyptiens et plus tard des Minoens, Crétois et même de Stonehenge quand on y pense. Et c'est quand même assez intéressant parce que du point de vue archéologique, on a trouvé beaucoup de villes. C'est une civilisation qui est urbaine. Et les villes les plus connues sont celles de Mohenjo-Daro, d'Harappa, de Dholavira aussi et de Rakhigari, et où on voit des villes qui ont été planifiées à l'avance, qui sont très, très bien construites. En fait, c'est Mohenjo-Daro là, qui a été découverte en 1922, qui a vraiment permis de comprendre la complexité de la civilisation de l'Indus, son art, sa religion, les modes de gestion, parce que là, on a vraiment un grand site archéologique, on a un grand espace urbain qui a été vraiment construit en briques cuites, très bien pensé, avec différents paliers, donc les habitations plus en bas, tout ce qui semble être associé au religieux en hauteur, donc on est en terrasse, en fait, et le plan est super bien conçu là, pour bien diviser les habitations, les lieux publics, les bains publics, parce que c'est une civilisation de l'eau, avec des réseaux d'égouts complexes, des puits, des fosses septiques pour éliminer les eaux usées, donc ça, c'est fascinant, et aussi des grandes réserves de grains. Donc, Mohenjo-Daro et Harappa, en particulier, sont des grandes métropoles là, qui sont très, très bien développées, avec une organisation civile, économique, sociale et culturelle très avancée, mais le problème, c'est qu'un peu comme Uruk, on n'a pas d'écriture. Ils ont laissé des petites plaques gravées avec différents animaux, qui étaient peut-être, en fait, une façon de s'identifier soit à une classe sociale ou à une région, et qui donnait peut-être des accès à des endroits précis de certaines villes. On ne le sait pas. Ça a été utilisé, cette théorie-là, dans un film, en fait, indien, qui était sur Netflix, il n'y est plus. Je sais si vous pouvez le retracer. Le film s'appelle Mohenjo-Daro, qui a essayé d'expliquer cette histoire un peu mal connue, mais c'est aussi une civilisation agricole, qui va pratiquer l'agriculture dans un climat qui est très chaud, mais un peu comme pour le Tigre et l'Euphrate, comme pour la Mésopotamie, on s'installe près des grands cours d'eau. Donc, vous avez l'Indus, mais vous avez aussi des rivières comme la Chagar-Akra, la rivière Sarawasti, qui vont assurer là, beaucoup de ressources en eau. Donc, l'eau domine le paysage et c'est pour ça qu'on est capable de développer autant d'installations hydrauliques. Donc, à Mohenjo-Daro et Harappa, on a des blocs appartements de plusieurs étages avec des canalisations dans les murs. Les gens ont des l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler des bains, même sur les étages. Et il y a un système de drain là, qui permet d'évacuer les eaux usées et d'envoyer ça à l'extérieur. D'ailleurs, dans ces canalisations-là, on a trouvé plein de jouets d'enfants. Donc, la preuve que les enfants jouaient dans le bain il y a vraiment très, très, très longtemps. Mais vous avez à Mohenjo-Daro cette espèce d'immense piscine qui amène encore aujourd'hui plein d'hypothèses. Est-ce que c'était pour des pratiques religieuses? Est-ce qu'il y avait une question de propreté? Est-ce que c'était plus associé à des bains publics, même s'il y en a à d'autres endroits? Ça reste encore je vous dirais, matière à réflexion pour l'instant. On manque en fait de sources archéologiques là, pour bien comprendre. Alors, voilà pour le cours d'aujourd'hui. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous suggère toujours là, en fait quelques livres. Alors, aujourd'hui, je vous suggère une parution très, très récente là, qui s'appelle « La Mésopotamie » de Gilgamesh à Artaban. C'est un collectif qui est paru chez Bellin dans leur collection sur les mondes anciens. Mais je vous suggère aussi un classique en histoire de la Mésopotamie. Si vous souhaitez voir l'évolution des connaissances et des réflexions entre le moment où ce livre est sorti et qui a marqué quand même un peu l'histoire mésopotamienne et ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, le livre s'appelle « L'histoire commence à Sumer ». Ça a été écrit par Samuel Noah Kramer. C'est paru chez Flammarion. Alors, c'est tout pour ce quatrième cours. Je vous dis à très bientôt, alors qu'on va commencer à s'intéresser au début de la civilisation égyptienne pour que vous puissiez faire des liens avec les premières civilisations mésopotamiennes qu'on vient d'aborder. Et si vous souhaitez suivre mes actualités en histoire et en archéologie sur les réseaux sociaux, eh bien, j'ai deux comptes Facebook, Evelyne Ferron, historienne, et un compte d'actualité qui est le compte Historiophile. Et je fais aussi des actualités sur mon compte personnel sur X. Alors, je vous dis à très bientôt!